Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans 20 minutes chaleur tournante, votre nouvel épisode des podcasts de Webullition. 20 minutes où les étudiants du master JMN vont tourner autour de cette table et de cette thématique pour parler des conséquences du réchauffement climatique dans Metz et le Grand Est. Dans une première partie, nous allons établir un état des lieux du changement climatique dans la région. Situation actuelle et projections, politique de la région et association. Notre invité du jour sera Thierry Touvenin, référent territorial de chez Météo France pour la Lorraine Champagne-Ardenne. Il viendra nous expliquer comment prédire les températures sur le temps long. Manon Delassue est allé en reportage prendre la température à Voipy sur un îlot de chaleur dans une école maternelle et un EHPAD. Antonin Hutz tentera de nous apporter un peu de fraîcheur en se demandant quel modèle serait idéal pour les stations de ski dans le futur. L'engagement des Messins dans cette lutte sera au cœur de notre seconde partie. Avec Léa Riffaut, nous reviendrons sur les actions de plus en plus nombreuses de la part des militants écologistes. Manon Legrand a discuté avec Laetitia Lhermitte du collectif Metz en Transition. Et enfin, Adélie Trimbourg nous livrera son regard sur le traitement médiatique du réchauffement climatique qui peut être considéré comme trop léger. « 2050, une date clé pour notre avenir. Tous les scénarios sont envisageables, qu'ils soient optimistes, modérés ou pessimistes. Quelle est la situation dans le Grand Est ? Steven Pellan, bonjour. »«
Bonjour Simon, bonjour à tous. » »«
Vous allez répondre à trois questions sur notre devenir climatique. »
La région Grand Est n'est pas épargnée par le réchauffement climatique. Le constat est là, les estimations sont alarmantes, mais des solutions existent.
Quelle projection pour 2050 ?
À travers des simulations de Météo France, nous pouvons observer qu'à l'horizon 2050, les températures moyennes ne cessent de croître dans le Grand Est. Les relevés météorologiques annoncent une augmentation dans la région de 1,6 à 1,9 degrés. Tout cela parce que des vagues de chaleur seront plus nombreuses. 30 jours de chaleur supplémentaires par rapport à la période 1976-2005. Concernant l'état de sécheresse du territoire, il concernera 35% du temps annuel, alors qu'aujourd'hui, on oscille entre 15 à 30%.
Et c'est là que nos auditeurs peuvent se demander quelles vont en être les conséquences.
Alors toutefois, si le domaine viticole est actuellement impacté positivement avec une augmentation du degré d'alcool, les fortes vagues de chaleur vont mettre sous tension le réseau électrique. De la même façon que nous l'avons vécu cet hiver en France, lors de la période de grand froid. À l'avenir, les températures seront assez variables. Pour rappel, lors de la canicule de 2003, les centrales du Grand Est avaient du mal à respecter les normes imposées à l'époque. Nul doute que ce sera compliqué durant les prochaines années.
Mais alors Steven, que faire ?
Eh bien, la région Grand Est compte se mobiliser. Elle a en tête quelques actions comme anticiper les capacités de production en énergie et en industrie. La région vient également d'adopter un plan sécheresse qui implique différents domaines comme le tourisme ou le transport. Ce plan sera soumis au vote des élus en mars prochain. Enfin, le projet Sésame, porté par la ville de Metz, qui choisit les espèces d'arbres en fonction du contexte urbain et aux effets du changement climatique. Cette liste est non exhaustive, bien d'autres dessins sont prévus.
Merci Steven Pellan. Et pour continuer ce constat sur le réchauffement climatique en Moselle et dans le Grand Est, Hugo Asmani, bonjour.
Bonjour Simon.
Vous recevez le référent territorial de Météo France pour la Lorraine.
Bonjour Monsieur Thierry Touvenin. Steven nous a parlé de température. Concrètement, comment ces prévisions de température sont réalisées par les équipes de Météo France ?
Bonjour à tous. Alors, ces projections climatiques sont réalisées sur la base de modèles de climat. Alors, nous sommes pas, il n'y a pas que Météo France qui en dispose. Hein. En France, on a d'autres organismes qui possèdent également des modèles de climat. Et même dans le monde, la plupart des services météorologiques nationaux disposent de modèles climatiques. À côté de ces modèles-là, nous avons des scénarios qui sont élaborés en tenant compte de la démographie, des transferts de technologies propres, enfin de différents modes d'évolution des transports, aussi le transport des marchandises, est-ce que c'est régional, l'aspect régional qui va être privilégié ou sur toute la Terre. Et toutes ces données-là sont utilisées pour, si vous voulez, avoir une idée du climat qu'il va y avoir. Alors, quand on parle de climat, on parle sur des moyennes trentenaires. Donc, on va regarder en quelque sorte le climat sur le moyen terme, c'est-à-dire 2021-2050, sur le moyen terme 2041-2070, et alors après sur sur une échéance plus lointaine, 2071-2100. Voilà.
Et quand on parle de ces scénarios, est-ce qu'on peut vraiment les prédire et est-ce que ces prévisions qu'on donne pour l'horizon 2050 sont-elles justes ou est-ce qu'elles ont vraiment un sens déjà aujourd'hui en 2023 ?
Alors, le changement climatique, on l'expérimente déjà. puisqu'au niveau national, déjà sur les 10 années les plus chaudes, au niveau national, je précise bien, 8 sont postérieures à 2010. Météo France dispose d'une station de mesure d'enneigement alors en Isère, au col de Porte, à une altitude de 1320 mètres à peu près, qui est représentative des conditions en moyenne montagne. Si on considère que la moyenne montagne, c'est à peu près 1200-2000 mètres. Et ben depuis l'ouverture de cette station, col de Porte, durant l'hiver 1960-1961, l'épaisseur moyenne a perdu quasiment 40 cm. Donc quasiment 30% qui a de baisse. Sans compter que, bon voilà, selon les projections climatiques, on aura non seulement, une baisse du manteau neigeux, mais aussi une période d'enneigement plus courte. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, avec l'augmentation des températures, vous aurez plus de pluie, donc moins de neige, puisque l'environnement sera plus probable, propice à de la pluie. Et donc du coup, la fonte sera plus vite. Ça sera plus rapide. Et donc du coup, la durée d'enneigement sera plus courte. Donc vous voyez bien que l'impact va être fort sur la partie montagneuse. Alors sur les températures aussi, c'est les températures. Bon, jusqu'en 2050, on sait à peu près, quels que soient les scénarios, on a à peu près une échelle que vous avez donnée. Quand on voit au-delà, dans le scénario le plus pessimiste, on peut atteindre en moyenne jusqu'à quasiment presque 4 degrés.
Et justement, pour finir, on a parlé de 2022 comme une année record. Est-ce que c'est aussi le cas dans la région Grand Est ?
Alors, on n'a pas battu les records en termes de température maximale. Alors, déjà sur la Moselle, nous sommes montés à 37 degrés et demi à peu près sur notre station de Metz-Frescati. On n'a pas battu les records sur la Moselle. Le grand record était du côté du Pays de Beach, sur la station de Mouterhouse. On a dépassé les 40 degrés. Donc c'était en 2019. C'est pas loin 2019 qu'on y réfléchit.
Merci Thierry Touvenin pour cet éclaircissement sur ces prévisions météo.
Merci Thierry Touvenin, merci Hugo Asmani pour cet échange à propos du constat sur le réchauffement climatique dans le Grand Est. Restons dans la région, et plus précisément près de Metz. Une zone est concernée par les conséquences que l'on vient d'aborder. Évoquons les mesures concrètes prises pour protéger les personnes les plus vulnérables face à la hausse de plus en plus précoce des températures. Manon Delassue est partie à la rencontre de professionnels qui travaillent à l'école maternelle de la Cerisaie et à l'EHPAD Huguette-Henri de Voipy.
Des hivers moins rudes qu'à une époque et des épisodes de forte chaleur de plus en plus longs et précoces, le climat messin porte, comme partout ailleurs, les stigmates du réchauffement climatique. Ces températures élevées nécessitent des adaptations au quotidien, notamment pour les personnes les plus fragiles. Yasmina Salem, gouvernante en EHPAD, et Valérie Karowski, directrice d'une école maternelle située à Wapi, ont accepté de témoigner de ces évolutions et des mesures que leurs établissements mettent en place pour préserver respectivement personnes âgées et enfants. Yasmina commence par aborder la mise en place du plan canicule élaboré par le gouvernement suite à l'épisode caniculaire de 2003 qui avait provoqué près de 15 000 morts dans les EHPAD.
Les températures supérieures à 30 degrés la journée et la nuit, si les températures sont supérieures à 20 degrés. Donc 3 jours de suite et c'est là où on lance le plan canicule.
Ce plan permet une organisation rodée et des mesures efficaces.
Les hydrater. Garder les pièces fraîches, donc en fermant les volets, fermer les fenêtres, donc une surveillance, un peu plus de surveillance. Ouais, donc il faut du repos aussi et les emmener à la salle climatisée.
En cas de forte chaleur, les mesures prises par les enseignants dans les écoles ne sont finalement pas si différentes de celles prises dans les EHPAD.
Je suis Valérie Karowski, je suis directrice de cette maternelle. On va se mettre à l'ombre. Et puis après on va rentrer, on va les faire boire régulièrement, plus régulièrement qu'un jour comme aujourd'hui par exemple. Voilà, les aides elles viennent tôt le matin vers 7h30, donc elles ouvraient tout. Et puis dès lors que le soleil commençait à bien taper, parce qu'en plus nous on est plein sud là, on fermait tout, les rideaux, et pour garder au maximum la fraîcheur dans l'école.
Avec ces adaptations, les professionnels exerçant dans les EHPAD et dans les écoles limitent l'impact des fortes chaleurs sur les enfants et les personnes âgées. Toutefois, pour que ces mesures restent efficaces, il faut à tout prix éviter une augmentation encore plus forte de ces températures.
Merci Manon Delassus pour ce reportage. Toujours dans le Grand Est, le mois de décembre a été particulièrement dur pour les stations de ski, sans le moindre flocon à l'horizon. De quoi remettre sur le tapis l'existence des pistes de neige, victimes annoncées de la hausse des températures. Antonin Hutz s'est entretenu avec Christophe Bergamini, directeur de l'office de tourisme à la station du Lac Blanc, pour aborder le futur du ski vosgien.
Une fin d'année 2022 tout en douceur. Pas le moindre flocon en vue sur les flancs des Vosges. La fin des stations de ski seront-elles rentables cette année? Ah, pas le temps de s'inquiéter. Milieu janvier, des dizaines de centimètres tombent. Presque 100% des pistes étaient ouvertes au Lac Blanc le week-end du 21 janvier. Ce serait précipiter les choses que parler de crise climatique pour les stations de ski. Un modèle économique qui correspond tout simplement à la demande du moment. Cependant, les stations savent que la neige n'est pas éternelle. L'avenir, un sujet sur lequel planchent déjà les gestionnaires des structures, selon Christophe Bergamini.
En station, on n'est pas bête. On sait que la Terre se réchauffe. On sait qu'il y aura de moins en moins de neige à courte, à moyenne altitude. Et les Vosges en font partie. Maintenant, on ne peut pas faire on-off ou alors on ne peut pas dire que c'est vert ou c'est rouge. Il faut vraiment qu'on arrive sur ces années de transition sur lesquelles on va essayer de travailler pour booster la fréquentation janvier, février, mars, parce que c'est celle-là qui nous intéresse sur la période hivernale, parce que si demain on n'a plus de ski du tout, du jour au lendemain, on est sûr que l'économie ne sera pas là. Vous savez, si on avait trouvé l'activité lucrative qui fait le même chiffre d'affaires que le ski, il y a longtemps qu'on aurait arrêté le ski en hiver.
Les loisirs à la montagne vont changer. À ce jour, aucune alternative aussi lucrative que les remontées mécaniques n'a été trouvée. Des activités beaucoup moins séduisantes aux yeux des touristes qui seront eux aussi obligés de changer leurs activités montagnardes.
Si on réfléchit en voulant avoir le même chiffre d'affaires qu'aujourd'hui dans 10 ans, va falloir trouver les bonnes activités et je suis pas sûr qu'on y arrive. Donc va falloir accepter qu'on ait moins de chiffre d'affaires, va falloir accepter aussi les touristes qui acceptent de venir à la montagne et non plus de venir faire du ski.
Il est encore difficile d'évoquer les activités de 2070. Ces dernières s'annoncent d'ores et déjà beaucoup moins rentables que celles actuelles. Une question de cycle. Après tout, le ski s'est démocratisé qu'à partir des années 70. Autant encore en profiter, il y aurait encore de quoi skier pour les 10-15 prochaines années.
Merci Antonin Hutz. Vous êtes toujours dans 20 minutes chaleur tournante, l'émission des étudiants du master JMN sur le réchauffement climatique dans le Grand Est. Après avoir fait le tour de la question sur la situation, nous allons aborder les actions concrètes mises en place dans la lutte. Bonjour Léa Riffou.
Bonjour Simon.
Ultima Generation, Just Stop Oil ou encore Dernière Rénovation sont quelques-uns des noms de groupes d'activistes qui bouleversent le monde de l'écologie de par leurs actions au coup de poing et qui ont fait la une des journaux dernièrement.
Depuis plusieurs mois, certains militants écologistes se sont emparés des musées et autres lieux symboliques afin de dénoncer l'impact des industries sur l'environnement et l'inaction climatique des politiques face à ce phénomène. Le 14 octobre, c'est le collectif Just Stop Oil qui marquait les esprits après avoir aspergé de soupe à la tomate les célèbres tournesols de Van Gogh, exposés à la National Gallery de Londres, avant de se coller les mains sur le mur du musée afin de dénoncer l'industrie pétrolière et réclamer l'arrêt de l'exploitation d'hydrocarbures. Quelques jours plus tard, ce sont les meules de Monet qui dégustaient une purée de pommes de terre. La statue du roi Charles III a quant à elle eu droit à une tarte à la crème au musée de Madame Tussaud.
Mais alors, pourquoi tant d'acharnement envers ces lieux de culture et de loisirs ?
En effet, alors que certains politiques s'insurgent du comportement de ces activistes envers ces œuvres d'art, les manifestants revendiquent quant à eux la symbolique du geste, puisqu'ils ne se tournent que vers des œuvres protégées par une paroi de verre et qui ne sont donc pas endommagées directement. L'idée derrière ce mouvement est donc avant tout de marquer les esprits. Mais récemment, c'est l'action du groupe Dernière Rénovation qui a fait parler d'elle. Plusieurs militants ont aspergé la façade de Matignon de peinture orange, une action qui, cette fois-ci, s'adresse directement aux institutions politiques. Alors, quelle sera la prochaine étape ?
Merci Léa Riffou pour ton décryptage. On reste dans le domaine associatif. En local, il y a aussi des initiatives. À Metz, associations comme citoyens cherchent des solutions pour préserver l'environnement. Manon Legrand a conversé avec la Maison des Alternatives Écologiques à Metz.
Laetitia Lhermitte est membre du conseil d'administration de la MAEC depuis avril 2022. Cette association a la particularité de mutualiser les ressources de différentes structures associatives afin de trouver des solutions durables.
L'idée, en fait, c'est de fédérer les différentes associations sur le tissu messin qui vont œuvrer autour de la transition écologique et de la transition citoyenne. De pouvoir échanger aussi avec la municipalité, avec la métropole, et d'être vraiment un acteur qui fait bouger les lignes et qui permet à toutes les bonnes volontés de se regrouper au titre d'un changement de société, d'un changement en faveur de l'écologie.
Alors faire bouger les lignes, oui, c'est l'objectif fixé par ce collectif depuis 2006. Laetitia nous parle des différents projets.
Mettre en lien, c'est ça qui est important pour nous, c'est de créer du lien entre les initiatives qui existent, pour pas rester dans un mode très silo, on aime bien dire ça, le mode du coup où on regarde que l'alimentation, on regarde que le déplacement, on regarde que l'énergie, mais voilà, d'avoir une idée de montrer qu'il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup d'initiatives et de les mettre en lien.
Des lieux d'échange, c'est ce que met en place la MAEC sur le territoire messin.
À la sortie du confinement, on a mis en place les apéros de la transition. Donc, on a donné rendez-vous à toutes les personnes qui avaient envie de venir rencontrer notre association, de venir soit discuter des initiatives des associations, soit de travailler, d'échanger autour d'un thème, comme par exemple la mobilité. On a monté un projet l'an dernier qui s'appelle « Et si on crée vraiment notre monde d'après ?», qui a pour but d'imaginer la ville telle qu'elle pourrait être en 2030, donc notre ville, d'aller réfléchir, d'aller questionner les citoyens sur ce qui les ferait vraiment rêver. On a accueilli un peu plus de 200 personnes, avec différents ateliers, des conférences, et surtout de faire rencontrer se rencontrer les gens, parce que c'est ça qui est important, c'est de prendre conscience qu'il y a beaucoup d'initiatives, qu'on rêve tous de beaucoup de choses différentes pour le monde d'après et de les mettre en place.
Ces apéros de la transition pour parler du monde d'après se déroulent tous les mois. Si vous voulez discuter du monde de demain, leur agenda se trouve sur leur site internet messentransition.fr.
Merci Manon Legrand pour cette découverte de la Maison des Alternatives Écologiques à Metz. On termine cette émission avec vous, Adélie Trimbourg, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Vous revenez sur la couverture médiatique, parfois considérée comme trop légère, du réchauffement climatique.
C'est ça. Vous souvenez-vous de ce film sorti sur Netflix en 2021, au casting spectaculaire et au succès planétaire ?
Donc Look Up ?
En effet. Ce film relate l'histoire de deux astronomes qui découvrent l'existence d'une météorite s'apprêtant à détruire la Terre. Alors qu'ils essaient d'alerter la population de la gravité de la situation, les médias rigolent, les décrédibilisent et prennent ça à la légère. Ce n'est qu'une fiction, me diriez-vous. Et si la fiction était devenue réalité ? Mai, juin, juillet, août, puis octobre, l'année 2022 compte 5 mois sur le podium des mois les plus chauds jamais enregistrés depuis le début des relevés météo. Automne le plus chaud, record du nombre de jours de canicule, deuxième été le plus chaud, année la plus sèche. L'année 2022 bat tous les records et se hisse tout droit en tête du classement des années les plus chaudes jamais enregistrées. De quoi alarmer, mais pas pour tout le monde. Sur le plateau de BFM TV, pas d'inquiétude, au contraire. Température douce, hiver printanier, Noël sous le soleil, tout le monde s'en réjouit et glousse gaiement. Un sacré Noël presque sans écharpe, voilà comment, sur le plateau de cette chaîne, on introduit la problématique. Et toujours avec légèreté et humour. Dans un article du 27 décembre, on pouvait même lire que les plus chanceux se trouvent au sud-est avec 22 degrés attendus en moyenne. Quelle chance en effet ! Plus tôt cette même année, en mai pour être précise, le rapport alarmant du GIEC tombait, dans lequel est inscrit que la hausse de la température globale s'est encore accentuée, un rythme qui fera très probablement dépasser le seuil de 1,5 degré de réchauffement, ce qui n'a pas eu l'air d'inquiéter grand monde. Après une COP27 sans grande réussite et de laquelle n'est ressortie aucune mesure concrète pour, si ce n'est stopper, au moins ralentir la hausse des températures, les gouvernements au pouvoir continuent de jouer dans le grotesque. La COP28, qui aura lieu à Dubaï, l'une des villes les plus polluantes du monde, sera présidée par nul autre que Sultan Al-Jaber, dirigeant de la compagnie pétrolière du pays. Même Don't Look Up n'aurait pas osé. Mais comment leur en vouloir ? Après tout, qui aurait pu prédire cette crise climatique ?
Merci Adélie, et c'est sur cela que notre émission 20 minutes chaleur tournante se termine. Un grand merci à Thierry Touvenin d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté ses connaissances sur le réchauffement climatique. Nous remercions aussi tout particulièrement nos professeurs encadrants ainsi que l'équipe de l'émission et un membre que nous n'avons pas entendu et sans qui ça n'aurait pas été possible, Imran Barodi à la technique. Si vous le souhaitez, nous vous proposons d'aller écouter Plein Écran, l'autre podcast de Webullition produit par les étudiants du Master JMN sur l'addiction aux réseaux sociaux numériques et aux écrans. À bientôt.